avec le corps, mais c'est c'est-à-dire que cette tension, dans son principe, ne peut être que provisoire. Elle est nécessaire, et donc il faut se battre avec. Mais elle est provisoire, alors la foi est là. La foi est là. Bon, c'est-à-dire de vivre de manière à ce qu'on veut le bien sûr, il y a des temps, moi, où il faut cacher la science, parce qu'elle est dangereuse, entre les mains des qui s'attendent. Mais nous sommes ici sur un problème un peu différent, au fond, plus intérieur. L'attitude intérieure de ces Chokhmot Kitsonio et de la Chokhma de la Torah, c'est celle du monophilisme de la Menorah, comme est indiqué dans ces commentaires. Et je répète la formule parce qu'elle est une chose importante. Et c'est ça que le Kohen Gadol d'Israël devait assurer, que les sept lumières vivent ensemble, à leur élevé, parfaitement. Sinon, on pourrait prendre n'importe quel porte-flambeau, je ne sais pas comment on appelle ça, n'importe quel chandelier, c'est encore un peu. Comment on appelle ça, les flambeaux? Non, c'est un machin qu'on voit dans les antiquités du 16e siècle. Les porte-flambeaux, avec combien de branches, par exemple? Il y a un autre fantôme de la classe, ça a changé. Bon, le corps a plusieurs. Voilà. La matière, déjà, à l'autre, déjà, est amenée. Bon. Et alors, voilà ce que dit Rachid. Ah non, maintenant, Rachid, l'âme à l'ismère. Pourquoi a été joint Parashat Menorah, la Parashat de la Menorah que nous avons ici, parce qu'il y a d'autres endroits dans la Torah où on parle de la Menorah et de la manière dont l'huile de la Menorah devait être préparée. La Manisira, Parashat Menorah, le Parashat Amesilim, à la Parashat des Princes, les filles, c'est-à-dire l'inauguration du Mishkan, les filles, ce que sera Aaron, lorsque Aaron a vu Hamkat Amesilim, l'inauguration donnée au prince, Halacha Azahri. Il a été, comme on dit, mélancolique. Halacha Azahri, je ne comprends pas. Quoi? Alors, le Midrash, qui c'est qui va dire ça? Vous avez compris, ok? Top. Le prince.
Il est ouvert.
Alors, vous avez compris? Et là, je reviens à ce que j'ai dit. Précédemment, c'est que pour bien montrer que le Mishkan ne peut être que le Mishkan d'Israël, la Torah a décidé, en fait, bien décidé, qui va inaugurer le Mishkan ? Eh bien, les maires des cantons. La Morata et Zori, je ne sais pas où. Et le. Ah, bon, pas tout. Je ne sais pas si vous en êtes. Rafa la Sadat. Que c'est l'Oraya, Maël. Qui n'était même pas avec eux, qu'on n'a pas dit un parmi les deux. Non, c'est juste les princes temporels, les princes politiques. Vous comprenez le fait. Je ne sais pas, j'ai vu aujourd'hui dans l'idée de Harold. Je ne sais pas où, à Fakim. Il y avait un anniversaire, 30e anniversaire de Fakim. Et alors j'ai vu le rabbin de la ville à côté de lui, Pérez, avec le Sefer Torah. Heureux comme un Pérez. Et ce n'est pas le rabbin qui portait le Sefer Torah, c'était Pérez. La rabbin a obligé à sortir. Vous reverrez la photo dans Maïliot. Comme quoi, c'est jamais désespéré. Alki Yuka a dit Hamsham Shimetara, Armena, Pekabeska. L'histoire de Bifégué par Avoda, ça qui ou car la vie. Donc, on peut revenir au problème. Halacha al-Dahto, que ce soit l'Almaël, Bahamik. Le roux de le chute, ni lui, ni sa tribu. Vous avez compris la première partie de la chute. Amarlo a fait le mort. Alors Dieu lui a dit Hayecha, Shekha, ta vie à toi, Dieu de l'âme chez la haine, est plus grande que la leur. Chiata Madlik ou Meti de Tanero. Parce que c'est toi qui allume et qui améliore Meti qui. Meti, quand on dit en Meti. Bon, vous avez compris. Pour moi, je suis chandelle quand il y a des. Les lumières. Mais alors, si on prend ça, sans prendre garde à ce qu'il y a derrière, alors en quoi le fait d'allumer le chômage qu'elle allume et qui arrange les lumières est plus grand que les grands princes qui eux sont. Voilà. Donc comprendre à la lettre. Shiata Madhuk, vous mettiez les amis, tout ce Mishkan pour que une lumière apparaisse. Mais c'est toi la lumière. Vous avez compris. Et alors, avec une responsabilité énorme, il faut l'allumer cette lumière. Et pas seulement l'allumer, il faut l'allumer, il faut l'améliorer, en fait, il faut la. Vous avez compris. Ok. Je crois que. Bon, ça nous l'avons dans le livre. C'est-à-dire que ça a été diagnostiqué par les Hachamim pendant le temps biblique, que aussi dans le temps de ces petites communautés, France, Champagne, Rachid, Platine, vous voyez ce que je veux dire, où le problème se posait, alors à plus forte raison dans notre propre société. Je crois que là, on a un exemple de ce problème du lien entre la tribu de Dieu et la tribu d'Israël, et réciproquement la tribu d'Israël avec la tribu de Dieu. Les peuples sont à ce sujet, vous êtes en cité simplement une. Prenez la suite de Rachid, qui revient sur le verbe Béha à l'Otecha, lorsque tu feras monter les lignes. Al-Shem, c'est ce verbe qui a monté et envoyé. Al-Shem, chez Al-Lahab, Ola, par le fait que la lumière monte, Al-Lahab, la flamme, Ola monte, Katou, le verbe Lakatan, lorsqu'on veut dire qu'on l'allume, qu'on les allume, c'est quoi? La chaîne Aïla. On parle de Aïla, dans les témoins. Et Rachid surajoute encore. C'est Tsari, les Hadlis, parce qu'il est nécessaire d'allumer, Al-Shekere, Chal-Hedet, jusqu'à ce que la flamme, Olam Eléa, monte d'elle-même. Mais c'est exactement ça, la discussion d'allumer. Si c'est pas comme ça, c'est pas allumé. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire, Rachid? Et il y a là une notion extrêmement importante. Ça veut dire qu'on a besoin du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il faut que finalement la lumière monte d'elle-même, mais c'est lui qui l'allume. Donc il n'a pas allumé, juste à sa lumière monte d'elle-même, il n'a rien allumé. Si vous avez compris, vous avez compris, sinon il est pas difficile. Alors je prends une citation de scène. Ah, comment dire? Bon, vous avez compris quand même. Que, ça veut dire, bien sûr qu'il allume. Mais il a vraiment allumé que si la lumière est montée d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a là une responsabilité pédagogique à l'échelle de la nation que seule l'Élévi et l'Aaron HaKohen, la tribu d'Élévi Aaron HaKohen. Alors voilà ça, prérogative. Je vais peut-être ajouter un peu plus, c'est que si vous lisez la paracha des Nephilim, c'est exactement le même texte répété 12 fois. Corbano, 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 les rapiers, les rapiers, les rapiers. Et à la Torah d'ailleurs, il y a quelques petits pièges. On a compris un bon hasard de voir l'avancée. Parce que c'est douce à la même chose. Avec une petite nuance. Premièrement, il y a une leçon importante, c'est que ce n'est pas qu'une tribu, je crois, différente de nous. C'est la même offrande, c'est le même récit. Et puis, c'est en tout cas une fois pour toutes que les Messies ont inauguré, comme on dit, posé la première pierre de l'édifice. Mais à Aaron HaKohen, ça c'est permanent. Il y a Aaron HaKohen, il y a cette autre dimension qui est extrêmement importante. Une fois que la première est quand même la plus importante à entendre, c'est qu'il faut que la lumière soit allumée jusqu'à ce qu'elle monte d'elle-même. Et à ce moment-là, Aaron HaKohen a réussi parce que la lumière n'a plus bien été dit. Je crois que c'est là la leçon le plus important. Qui est celui qui a réussi, c'est celui dont on n'a plus besoin. Mais quand on a besoin des Nephilim, c'est que des Nephilim. Je crois que c'était la chose. Voilà donc la première leçon que je voulais voir avec vous. Je vais voir le sentiment. Ça c'est évident. Vous rappelez, je vais ouvrir un peu parce que. C'est pas la lumière, mais c'est l'air qui ouvre. Vous rappelez dans le séminaire que nous avons eu sur l'éducation, le verset cité cette année, l'année dernière. Le verset qui était revenu dans chaque analyse de tous les conférenciers pratiquement, c'était Hano, Lanaha, Alpi, Darko, Vea, Vegam, Kiaskin, Loyasun, Menu. Ça veut dire que l'éducation, c'est le fait de rendre quelqu'un adulte. Et donc l'éducateur a réussi, lorsque l'enfant est devenu adulte. C'est-à-dire précisément lorsqu'il n'a plus une vie. En principe. Bien. Alors écoutez, il me reste une demi-heure, je me demande lequel de vous préférez choisir, soit, je vais vous dire d'ailleurs, vous pouvez décider vous-même, soit un texte qui est encore dans la paraphrase de Masté, qui est le texte de la Isha Sota. Et le problème de la jalousie et le problème de l'autre. Et alors je vais servir une grâce à ce sujet. Soit dans la paracha de Baal-Pécha, le récit en quelques versets où Jéthro quitte le peuple d'Israël pour entrer chez lui. Il y a quelques contents, mais très important. Vous savez que, à Shavuot, on n'est pas très intéressé. Alors nous avons trois thèmes qui convergent. C'est la Torah donnée à Israël, dans la paracha de Jéthro, qui est le guerre qui s'est adjoint à Israël, et pas n'importe lequel, le beau-père de Moïse, hein, et puis le livre de Ruth. Alors Ruth, elle vient des Goïms pour rentrer en Israël et elle reste en Israël, David va pouvoir mettre. Alors que Jéthro, Moïse a réussi à le convaincre, à le convertir, comme on peut dire, à le naturaliser. Et puis lui, dans ce texte-là, il veut quitter Israël pour s'occuper de son peuple. Et c'est exactement le Jéthro, c'est le contrepoint de Ruth et Ruth, c'est le contrepoint de Jéthro. La Isha Sota, ça parle des infidélités de la légitimité, de la femme légitime. Et je vous montrerai ça un peu au tableau, puis vous déciderez lequel est le texte que vous connaissez. Et de pourquoi pas. Enfin, je voulais dire Charcot. C'était Charcot, quoi. Je vous dis, je comprends. On nous raconte que lorsque Moïse s'est heurté à la division des Hébreux en Égypte et s'est enfui de l'Égypte à cause de l'état de la société des Hébreux en Égypte, il est allé d'emblée chez Jéthro. Et alors, ça je vais peut-être le reprendre, je ne pense pas en séminaire sur la Shoah, mais je le reprendrai à la conclusion du séminaire sur le Messie. Alors il y a un verset très important qui est que Moïse a finalement décidé de rester chez Jéthro, qui, dans le verset immédiatement précédent, lui propose d'abandonner et l'Égypte et Israël, de prendre femme dans sa famille et de devenir le berger des troupeaux de Jéthro, c'est-à-dire de devenir le beau-fils. Du peuple, du grand prêtre du peuple de Midian, un peu comme Jacob était devenu le beau-fils de Laban, vous savez, il arrive auprès d'un puits, et le contexte montre que là, il y a une scène très analogue à la rencontre entre Jacob et Rachel, et puis c'est la rencontre entre Moïse et les filles de Jéthro, et finalement, il est invité chez Jéthro, et le verset commence comme ça, « Vayoel, Moshe, l'achevet et Taïch ». Et il m'a échoué d'Aïch. Prenez un verset, ça m'inquiète la mémoire. Shemot, vous avez dit Shemot ? Top, regardez, verset chapitre 2. Si c'est Vayo et Moshe, le chevet, et Aïch, oui, m'a échoué, regardez. Et on enchaîne.
C'est pas périmé. Alors c'est périmé. Ben j'ai un livre. Donne l'explication suivante, c'est que Jéthro lui a fait promettre de ne pas le quitter sans son autorisation à lui, Jéthro. Vous verrez dans la chaîne. Et là, nous retrouvons un thème très important de l'indication de la situation d'exil. Qu'on a pas, on ne peut pas quitter l'exil sans l'autorisation de celui chez qui on est en exil. Ça veut dire que Jéthro lui a fait comprendre que, quoi qu'il en soit, il est en exil. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il a vraiment compris qu'il était en exil, et qu'il a nommé son fils Guéréchon, en disant qu'il est Raïti Béret Lafria, l'explication du nom de Guéréchon, c'est car j'étais étranger dans un pays étranger, que Dieu se révèle à lui dans la vision du buisson ardent, et c'est la première fois qu'il se révèle à lui. Ça veut dire qu'il a fait tout ce cheminement, plus l'Égypte, pas les Hébreux, peut-être Midian, et ce n'est que lorsqu'il a compris qu'il était vraiment étranger à Midian, et qu'il n'y avait pas d'autre d'Israël que Israël, Israël, que Dieu se révèle à lui, et c'est là que s'enclenchent les événements de la sortie d'Égypte. C'est le père. Et il y a un problème de prononciation, parce que normalement, ça devrait être Gershom, et pas Gershom. Alors certains disent que c'est une preuve pour la prononciation ashkénaze, et d'autres disent que c'est la prononciation sfarade qui serait la vraie. Quoi qu'il en soit, je vais donner un autre exemple. Inverse. Vous savez que la braille qui a consisté à la fin de la prière le Shabbat matin, qui rave Shalom Banaïr, Altikre Banaïr et la Bonaïr. On peut faire ça qu'en soir avec. Sinon, c'est Altikre Banaïr et la Bonaïr. Mais c'est pas vrai, parce que dans la vraie prononciation ashkénaze, les deux O ne sont pas les mêmes. Il faudrait dire Altikre Bonaïr et la Boinaïr en majuscule. En tout cas, pas de problème. Et un deuxième Midrash nous dit, Yoel Moshe, il a accepté les conditions de Jéthro, et c'était quoi les conditions? Un Midrash étonnant, qui dit, Jéthro lui a demandé qu'un de ses deux enfants soit consacré à l'idolâtrie. Et il y a ici une indication plus grave que dans le premier Midrash. C'est-à-dire, dans le premier Midrash, il y a un petit peu la tentation pour Jéthro de considérer sa relation avec Moïse d'Israël, avec Israël Moïse, à la manière du pharaon, considérant sa relation avec Israël comme une relation d'appropriation. Il est devenu fécondé l'Égypte, il est devenu fécondé Midian. Tu ne peux pas partir avant que je te donne l'autorisation et je ne la donne pas. Rappelez l'histoire de l'Égypte. Un deuxième, il y a un accent encore beaucoup plus grave. C'est que nous avons une Gemara qui dit que celui qui habite en Koutlaret est comme s'il était idolâtre. Cette Gemara est claire, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, tout se passe comme si Jéthro, et là ça rejoint encore le premier ouvrage, a fait promettre à Moïse qu'au moins un de ses deux enfants, une partie de sa force, servirait à la diaspora. Parce que la diaspora, c'est comme si on était idolâtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez la Gemara de Moïse. Mais la Gemara de Koutlaret. Pourquoi je dis tout ça? Parce que un des livres les plus importants de l'idéologie de la diaspora, tout le plus important, de l'idéologie de la diaspora anti-israélienne, c'est le livre qui s'appelle Vayoel Moshe, comme par hasard, qui a pris ce verset-là. Ce qui était hier soir, c'est hier soir, à la conférence, vous rappelez que le conférencier, j'ose pas citer son nom, qui s'appelle Eliyahu Barnavi. Et alors, il faut être ironique pour s'appeler comme ça. זה לא מתורגם, שאלתי אותו, הוא אמר לי שזה השם של הדוד שלו. qui veut l'attacher chez la médecine. Oui, il va plus marcher chez la médecine. Il va avoir un nom galactique, et puis il a pris un nom hébreu dans sa famille hébraïque. Donc, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il est marié en français. Hein? Tout ce que c'est qu'il est marié avec une Française. Enfin, une Algérienne, mais on sait. Et là, c'est le rabbe Yoel Tatenbaum, Zichrono Livracha, quoi qu'il en soit, ça c'est un souhait, ça c'est un bras. Et alors, vous savez que les rabbins ont l'habitude, pour intituler leur livre, de prendre une combinaison de versets où il y a le nom. Alors, regardez la coïncidence. Quel verset il a choisi? Dafka sur Vayoel Moshe. Si un jour vous entendez parler de celui de Vayoel Moshe qui fait des ravages dans les Yeshivot, rappelez-vous de cette coïncidence, une espèce de sourire en coin de la Providence. Hein? Il a bien dit ce qu'il voulait dire. J'ai compris le lien. Hein? Et alors, là. Voilà donc ce qui se passe. Je trouve en fin de compte à quitter le peuple d'Israël, et puis effectivement il l'a quitté. Et je me suis fait deux commentaires corollaires, correspondants, complémentaires à ce sujet. Alors prenez, dans Béal Otecha, c'est dans le chapitre 10. À partir du verset 29. Alors, au début des premiers versets, vous êtes verset, chapitre 10, verset 29. Okay? Ça va? Quelle page vous avez?
540.
Les versets précédents montrent dans quel ordre les tribus allaient d'étape en étape et sous la direction de quel chef de tribu, du point de vue de l'ordre, à la fois de l'ordre de marche et de l'ordre de bataille. Et juste quand on a fini, et les Masaï Bene Israël et Tivotam Vaïsaou, le verset 28, verset 29, Vayomer Moshe, et Moïse dit, les Hova ben Reuel à Midiani. Et Ahova, fils de Reuel de Midian. Là, je ne sais pas si de nouveau dans ce verset, mais nous apprenons d'autre part par le Midrash que Jéthro avait sept noms. Un de ces noms, c'est d'ailleurs Reuel, un autre c'est Hova, un autre c'est Yitro, un autre c'est Yeter. Est-ce que c'est cité ici? Oui. Hova. Ou Yitro. Ben Chenemar, il venait Hova, Chotel Moshe. Vous mettez mon gomard. Dans la scène que vous avez décrite auprès du puits, lorsque Moïse voit les filles de Jéthro et les bergères, la veille est appelée Reuel. Ushmot Arbe Hayulo. Il avait beaucoup de noms. C'est-à-dire, ce sont tous des noms qui indiquent la fonction de sa manière d'être homme dans la société et la dimension qu'il peut apporter à la société d'Israël en venant dans la société d'Israël et qui est très différente de celle de Ruth. Je veux dire très rapidement à propos de Ruth pour qu'on complète par rapport à Jéthro. Alors il faut se rappeler que Ruth était la descendante de Lot. Or vous vous rappelez que Lot était très proche d'Abraham dans son identité. Au point de départ du récit, on voit Lot et Abraham très proches. Et puis au fur et à mesure du développement du récit, on voit que Lot se sépare et séparé d'Abraham. Ils avaient une capacité, disons, messianique à l'origine, analogue. Ils auraient pu devenir l'un et l'autre ce que la Torah raconte d'Abraham. En réalité, c'est un peu plus ample dans le récit précédent. Il y avait cinq personnages. Terah, Haran, le fils aîné de Terah, dont le fils est Lot. Vous avez donc Lot, vous avez Nahor et Abraham. Ça fait bien cinq. Hein? En Terah, il reste quatre tentatives qui aurait pu être celle d'Abraham. Haran meurt tout de suite, il ne tient pas le coup. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne peux pas. Mais il laisse Lot. Nahor disparaît, il meurt aussi rapidement en chemin. Il va laisser d'ailleurs des descendances qui rejoindront Abraham. Et puis Abraham, ça fait quatre, comparé avec les quatre qui sont entrés dans le Pardès. Et alors, je vais faire la parenthèse très rapidement, le projet de la Aliya de Hourkazim en Eretz Israël a quatre dossiers différents possibles. Et ça y est, c'est clair, oui, tout. Celui qui n'y arrive pas, celui qui se perd en route, et les deux qui arrivent, et Alain qui est le bon, et l'autre qui est le heureux. Et alors, et oui, le heureux. Ah, Sodome et Gomorrhe. Et, mais qu'à lire les. Bon, je ne veux jamais calomnier les juifs, même pas les ordinaires, l'interdit. Alors, je reviens au problème. J'allais vous parler des cabarets de Hambourg. Enfin, non, il ne faut pas aller jusque-là. En tout cas, pour revenir à notre problème. Donc, Lot n'est pas n'importe quel autre qu'Abraham, si je dis. C'est celui qui aurait pu être vraiment comme Abraham. Comme je disais, il a un projet messianique identique, en tant que projet très analogue à l'origine de leur histoire. Et les deux sont capables d'être frères. Vous vous rappelez qu'on a étudié dans les cours précédents, lorsque Caïn a tué Abel, le mot de frère disparaît du récit. Il revient avec Abraham. Et on voit que Lot accompagne Abraham au début de son histoire, comme si le projet de la providence pour Abraham concerne aussi Lot. Et puis, bon, Aram n'a pas tenu le coup, mais il y a Lot qui le représente, Nahor s'est perdu, Terach était resté président de la Fédération sioniste de Hourkazim, et puis c'est Abraham qui s'est fait à lui. Et alors là, que disais-je ? Oui. Lorsqu'il y a eu la querelle des bergers, vous vous rappelez ? Et à propos de la querelle des bergers de Lot et des bergers d'Abraham, on retrouve la même problématique que Caïn et Abel. Il y en a qui dit que la terre n'était pas assez grande pour les porter, ils étaient deux. Vous vous rappelez ? Et alors les bergers d'Abraham querellaient les bergers de Lot parce que les bergers de Lot singeaient les bergers d'Abraham, mais pas sans la vertu de la moralité. À ce moment-là, il revient après sur la définition de la séparation, Abraham dit à Lot, nous ne nous querellons pas, qu'il n'y ait pas de querelle entre tes bergers et mes bergers, entre toi et moi, qui anachim achim anachim, car nous sommes des hommes frères, alors ils n'étaient pas frères. C'est-à-dire, le commentaire va expliquer, ils sont de la même classe de fraternité, tout ce que vous voulez, comme des frères. Mais plus profond, ça veut dire, tous les deux nous sommes porteurs de cette identité frère. Et seulement voilà, ils dévoilent, il y a les frères, il y a les faux frères. Et les faux frères, ce sont ceux qui ont le projet de frère, mais pas dans la morale. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous donnez comme exemple, j'ai connu cette époque des camarades. Vous voyez à quoi ça correspond le vocabulaire de camarade. Mon frère, c'est dans les ordres. Mon frère, ma soeur, et les camarades. Il n'y a pas eu d'homme plus cruel les uns pour les autres que ces camarades-là. Camarades. Oui. Et puis dans d'autres nations, c'est les frères. Oui. Aujourd'hui, on dit quoi, mon pote. Et c'est la même chose. Ça veut dire le projet formel est analogue. Oui. Mais là, c'est selon la moralité, et là, c'est pas selon la moralité. Alors, ça, bon. Mais on voit qu'Abraham tient à protéger Lot là où il se trouve. Et le Midrash a bien posé l'étonnement, ben, évacueux, geste-le, il a préféré Sodome et Gomorrhe. Pourquoi le texte nous montre à tel point cette sollicitude de la Providence, il faut protéger Lot, alors que c'est la pureté absolue. En particulier lorsque Abraham dit « si tu vas à gauche, je vais à droite, et si tu vas à droite, je vais à gauche ». Rachel intervient, c'est un Midrash, il dit « qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, s'il va à droite, il va à gauche, s'il va à gauche, il va à droite. » Indépendamment de ce qu'il y a là-dedans, puisque si à droite c'est Sodome et à gauche c'est Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire qu'on pourrait faire l'inverse ? Ça aussi on peut répondre, mais ce n'est pas encore le sujet. Et Rachid dit, si tu vas à droite, je serai pas loin, je serai à la gauche de ta droite, tout près, pour te protéger si c'est nécessaire. Et si tu vas à gauche, je serai pas loin, je serai à la droite de ta gauche pour te protéger si c'est nécessaire. C'est un exemple de cette sollicitude. Et lorsque Abraham apprend que dans une guerre entre 4 croix et 5 croix, Lot a été fait prisonnier, il va se plonger dans la guerre pour sauver l'autre. Le Shlach, en se basant sur le Zohar, comme d'habitude, dit, il savait qu'il y avait une étincelle de sainteté enfouie dans la cendre d'où sortirait le roi David? Ruth. Et c'est pourquoi Ruth n'est pas n'importe quelle convertie à Israël. C'est bien clair? Pourquoi elle est capable d'être l'ancêtre du Mashiach? Il faut l'attendre pour cela. Parce que ce n'est pas n'importe quelle manière d'être homme loin de l'identité d'Israël. C'est celle qui est la plus loin parce qu'elle était la plus près. C'est celle qui était la plus près, alors elle est devenue la plus loin. Alors c'est celle-là qu'il faut ramener pour que le Mashiach puisse venir, toujours dans l'économie du monopéisme absolu. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors ça, c'est l'aventure de Ruth. C'est-à-dire qu'on décèle tout de suite que déjà dans la famille de Lot, il y avait des comportements messianiques. Il faut sauver l'humanité. Mais dans l'impureté, dans la défigure, dans la caricature, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je raconte la scène. Les filles de Lot étaient persuadées qu'elles étaient seules au monde avec leur père. Alors elles voulaient sauver l'humanité. Hein. C'est un projet messianique, mais dans l'impureté. Je pense que c'est clair. Par conséquent, il faut attendre que cette identité messianique défigurée s'épure, se transfigure plus exactement. Il y en avait du temps. Hein. Et finalement, c'est Ruth qui arrive. Alors, Baruch Haba, Shavuot, Matan Torah, tout ça éclate. Hein. Ça, c'est Ruth. Tandis que Yitro, c'est un projet tout à fait différent. Et alors, on va lire maintenant les versets, et je vous explique les deux manières. Voyons-nous, mon cher, le Hora, fils de Reuel, à Midian, et Moïse dit à Hora, fils de Reuel de Midian, Hot et Moshe, le beau-père de Moïse, Nosim Anachnu, nous dirigeons, Nosim Anachnu, et Ramakom à l'endroit, à Sheramar Hashem, que Dieu a dit, Oto et Tenachem, c'est lui que je vous donne, Lecha Itanu, viens avec nous, Vetamula, et nous te ferons du bien. Nous te gratifierons, devons-nous, qui Hachem libertera à Israël, car Dieu a parlé que le bien pour Israël. Et je reviendrai après sur le verset, mais continue. Voyons, elle est là, et Jethro lui répond, l'OLM, j'irai pas. Bien, j'irai pas. À quoi ça ressemble? Je sais pas. Ils sont dans le désert, j'irai pas. Ça ressemble à quoi? Les exploits. Vous vous rappelez de ça? Oui, les maladies. Quand le peuple sortit d'Égypte, bien Moïse, l'on a allé. On ira. Vous avez compris tout le monde. Alors je reviendrai sur cette identité de Jethro. Qui im el arti ve el molati el. J'irai à mon pays et à ma patrie. Alors qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Sors de ton pays et de ta patrie. Jamais. Soi-disant. Oui, j'interviens, plaide, vous verrez lui-même le problème. Je ne vais pas faire amplifier tout ça, enfin de développer tout ça, mais je vais vous donner, sans même voir sur le texte, on a plus beaucoup de temps, de l'indication. Une indication très négative, et je crois que c'est celle-là que je suis ici, qui dit, mais l'artiste, elle m'a dit, elle est. Im bishvi nechassai, im bishvi mishparti. Je vais te quitter, soit parce qu'il faut que je m'occupe de mes biens, ça c'est arti, soit que je m'occupe de ma famille, mon arti. Ça veut dire réaction, égoïsme. Ta Torah, c'est très bien, mais mon peuple, ma famille, ma société. Vous se profiler ce type de relation à Israël, tel que l'histoire nous l'a prodigué. Hein. Oui, ta Torah, c'est très bien, mais mon peuple, ma terre, toi, je ne veux pas toi. Vous comprenez à quoi je fais l'idée? Non, je vais le reformuler, parce que c'est une formule qui me semble indiquer beaucoup de choses. Vous savez que à partir d'après la Shoah surtout, à une échelle aussi massive, il y a énormément de goyim qui ont fait un revirement de conscience et qui nous aiment. C'est vrai. Je ne crois pas qu'on peut nier le fait. Je ne parle pas de ceux qui veulent vraiment devenir Israël comme notre peuple. Et on n'a jamais eu autant d'amis. Et c'est vrai. Alors il y a un proverbe juif qui est d'ailleurs du Talmud, c'est Kavdehu Vehashdehu. Ça veut dire, je ne sais pas comment traduire. Kavdehu, rends-lui honneur, Vehashdehu, reste vigilant. J'ai bien traduit. Parce que si on fait le bilan de cette histoire, comment on peut la formuler? Je ne pense pas d'ailleurs forcément au père Dupuis ou au père Louton. Comment on peut la formuler? Et voilà ce qu'on a entendu pendant 2000 ans. Ton Dieu n'est pas toi. Ton livre n'est pas toi. Ta vie n'est pas toi. Toi, mais pas toi, parce que toi, c'est moi, et toi, c'est toi. Voilà, finalement, on a entendu pendant 2000 ans. Alors, on est changé de stratégie, ça, c'est un autre problème. Mais le phénomène est absolument le même. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les journaux l'histoire des Mormons. Vous avez suivi ça?
Oui, j'ai suivi.
Et puis, ce qu'on appelle les chrétiens pour Israël, je ne peux pas vous raconter des détails, vous savez que tous les détails en Israël sont secrets, sécurité, quelle, mais je ne peux que répéter la formule, 4 des ou, HD. Et alors, ça c'est, comment dire, la phase d'explication négative de l'attitude de Jethro. Il y a des commentateurs qui ont donné l'explication positive. Il a dit non, je vais aller à mon pays et à ma patrie pour les convertir. Maintenant que j'ai compris, je vais les convertir les autres. Je crois que finalement ça finit par revenir au même. Et alors je voudrais éclairer cela. Exactement dans les termes dont ces versets s'expriment, c'est une sorte de préfiguration, réputation générale à l'avance de ce qui est arrivé de la génération du désert. Et très rapidement, je vous rappelle un peu l'essentiel de ce qu'on a déjà peut-être étudié d'autre part, ou ici, ou d'autre part. C'est un problème que je vais expliquer d'après le Haïm, un livre que je cite très peu souvent, simplement pour vous indiquer que c'est sérieux. Haïm, c'est la formulation de l'enseignement que le Mocho, Rabbi Chaim Vital, a reçu du Harizal, que le Hari, comme vous le savez, a très peu écrit, c'est son élève, le Rabbi Chaim Vital. On appelle Morenu Rabbi Chaim Vital, le Mocho. Et il y a dans des communautés, on dit le Mahou, mais c'est le Mocho en Afrique du Nord. Et là, ce livre s'appelle Haïm. Et il étudie dans un chapitre, un partout, une manière d'être Israël dans l'histoire qu'on appelle Dora Midbar. Dora Midbar, la génération du Béni. Voilà qui est. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a un Erevra, c'est-à-dire une foule de peuples, un peuple en foule, mais pas telle ou telle société, pas tel ou tel peuple, des peuples qui étaient esclaves en Égypte en même temps qu'Israël, qui sont sortis d'Égypte en même temps qu'Israël. Mais à Sarsouf, je vais peut-être vous donner un verset là dans la parasha de Barlotera d'ailleurs, à propos de Slaves, pas les Slaves, les Caïs, en hébreu. Voilà, c'est le verset 4 du chapitre 11. Prenez tout de suite le verset 4 du chapitre 11. Yudalef Dalet. Voilà. Ve Asatsuf Asher Bekirbo. Et la foule, Asatsuf, vous voyez la racine Asof, Asaf, Ken, et la foule qu'il y avait en son sein, au sein d'Israël, Itaru Tahava, ont été pris d'envie, de désir. Jusque-là, ils mangeaient que la manne. Ils ont eu une envie de nourriture autre. Et alors, sont revenus et ont pleuré aussi les enfants d'Israël. Ils ont dit, qui nous vendra de la viande à manger. Ici, c'est très clair. L'initiative de cette faute, entre guillemets, si c'est une faute, c'est le Asafou. Regardez ce que dit Rachid sur Asafou. Et le Erevab, chez Asfou et les Alehem, Betzetam et Mitzrayim. C'est le Erevab qui s'est ajouté à eux, à leur sortie. L'initiative, comme au moment de la faute du Vaudor, c'est ça, ça tout, ce rêve-là. Hein? Mais que dit le verset, va Yachou, va Yachou, comme Béni Israël. Mais ils ont été assez forts pour influencer les Béni Israël. Et ils ont dit, qui nous fera manger de la viande. Bon, le sujet est comme autre sujet, c'est une autre année. On trouve encore la viande dans les boucheries, alors c'est pas grave. Et il s'est passé cela, déjà, au moment de la faute du Vaudor. Au moment de la faute du Vaudor, l'initiative de la faute, ça nous l'avons étudié dans la paracha de Kikissa, si vous en souvenez, l'initiative de la faute est venue du Erevra. Mais, comme il est dit ici dans notre paracha, ils sont arrivés à influencer les Bnei Israël. Au moment de la faute du Vaudor, les deux camps étaient à peu près de même force. On ne pouvait pas dire qui allait triompher de l'autre. Et alors, finalement, Moïse plaide, Moïse appelle sur la faute du Vaudor, et Dieu lui répond, la sanction est suspendue, comme tu m'as prié, mais à la prochaine faute, je sanctionne. Or, la prochaine faute, c'était d'Arka, la faute des explorateurs. C'est-à-dire que cette génération n'a pas voulu entrer en Eretz Israël. Et alors, alors que la sanction était suspendue au moment de la faute du Vaudor, la faute contre Dieu, les 10 commandements, enfin les 10 commandements au Sinaï, lorsqu'il y a eu la faute vis-à-vis des fêtes d'Israël, c'est sanctionné, ils ont été tous enterrés dans le désert. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre ça que 40 jours après le Sinaï, il y a une faute aussi énorme? On comprend que l'initiative de cette idolâtrie renouvelée vient du Hérévla. Ils étaient à peine initiés à l'identité d'Israël. La raison pour laquelle Moïse les a intégrés, c'est qu'ils sont destinés à faire partie d'Israël, puisqu'ils ont la même expérience, ils ont existentiel, Galut Geoula, ça c'est Israël. Donc Moïse a dit, vous êtes de chez nous. Mais encore, comme je disais à propos du projet de sainteté pour Israël, en projet de vérité, c'est évident. Mais au niveau de la réalité, c'est à différer, il faut Biur Kahalacha et Vehechma. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait les 6 générations de l'éducation hébraïque d'Abraham à Moïse. Ça leur manquait et Moïse n'a pas eu le temps de leur donner. Donc on peut comprendre que l'initiative de la faute du mot d'or vient d'eux. Et puis, ça éclaire beaucoup d'épisodes de notre histoire. Ils ont été beaucoup plus forts que les Hébreux eux-mêmes. Hein? Encore une fois, au pied du mot d'or, 50%, un peu comme à la Knesset. Et puis, au moment des explorateurs, c'est une toute autre proportion. Sur 12 chefs de tribu, 10 ont pris le parti des. Ça, c'est comme chez les Somalis. Et alors, la question qui se pose, c'est comment comprendre, malgré tout, qu'après le Sinaï, 40 jours après, puis arriver une affaire. Alors, la réponse de la Kabbalah que j'ai citée est la suivante. Ce Hébreu était prêt à recevoir la Torah. C'était difficile, mais dans le projet de Moïse, tel que Dieu l'a béni, s'il faut le temps, mais ils sont candidats à la Torah. C'est clair. Eretz Israël, ça ne les concerne pas. Eretz Israël, c'est la terre des Hébreux, c'est la terre des Bnei Israël, des descendants des patriarches. Vous voyez comment ça ressemble? En fait, c'est parallèle, puisque ça ressemble. C'est parallèle avec ce récit concernant Jethro. Et là aussi, il y a des implications graves à comprendre pour le temps pendant le problème. Parce que nous voyons, de nouveau, le peuple s'est divisé en deux. Ceux qui disent à la rigueur la Torah, mais Eretz Israël, ça ne nous concerne pas. Si, comme on parle la Torah, la terre sainte, mais Eretz Israël, comme on parle la Torah, vous avez compris le. Et alors, il y a donc là une problématique, elle est grave, Bnei Israël, qui est très grave. Parce que ce que vous entendrez souvent, c'est de dire, c'est Dafka le Hérévra qui est venu en Eretz Israël. Les Bnei Israël sont dans la diaspora, la Torah. Hein? Alors que la Kabbalah dit justement. C'est-à-dire, c'est le parsouf du Hérévra, c'est celui de la Galoute. Parce que Stam, comme je viens de le citer, c'est irréfutable, c'est les faits. Eretz Israël ne les concernait pas, ce qui les concernait, c'était la Torah. Vous avez compris le. Bon, alors je n'ai pas dit que les juifs pieux de toute la reine, c'est des descendants du Hérévra, ça personne ne sait d'où il vient. Le problème, c'est de savoir où on va. Voilà ce que je voulais citer par rapport à Jethro. Okay.
Est-ce qu'il y a des exemples que les Druzes.
Non, pas descendants. Les Druzes, c'est une. Non, comme prophète. Les Druzes sont une partie de l'islam. Qui a été en schisme, je crois, il y a 400-500 ans à peu près, avec le Islam, l'islam sunnite, et qui reconnaissent que Jethro comme prophète. Mais c'est des musulmans d'une secte particulière, comme chez les chrétiens, vous avez 3 grandes églises, c'est tous des chrétiens quand même. Et ce que je veux dire, c'est ceci. C'est la. Enfin, ce dont je parlais juste avant, ça m'échappe, c'est dommage.